chine. Pour toi j'ai fait, pour toi, cette chanson cruelle et câline. Comme la voix d'un mort qui chanterait du fond de sa France. Maîtresse, entends monter vers ton retrait ma voix aigre et fausse.
Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait au toit que voilà le rang sans cesse? Dis, qu'as-tu fait?
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour Sylvie.
Bonjour tout le monde.
Et on va Bon, continuer un peu sur cette question qu'on se pose et donc on obtient un peu de réponses quand même, à savoir, est-ce qu'il existe un lien entre la psychanalyse et la politique ? Possible, en tout cas, peut-on associer ou faire relationner ces deux disciplines ?
Déjà, quelques petites annonces ?
Mais oui, on va commencer par un événement qui a lieu à Publico.
Ah oui, tu veux dire avec toi ?
Exactement.
Je t'ai dit, tu vas te sentir harcelé à la fin. Oui, on va, comme ça va être les vacances, on s'est dit avec le groupe Libertaire d'Ivry qu'on allait passer un film fun, enfin, avec moi, hein, tu me connais, Denis. Fun, ça veut dire un peu horreur, malheur, mais bon. C'est un film de Cronenberg qui s'appelle Chromosome 3. Et qui date de 79 et qui est très original et qui montre effectivement une psychothérapie très révolutionnaire. Je vous spoile pas pour vous dire ce qui se passe. Mais ce sera suivi d'une discussion avec Denis et d'une présentation de l'émission L'Entonnoir. Et c'est le dimanche 19 juillet à 16h, accueil à partir de 15h à Publico, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, République, Fille du Calvaire. Voilà. Et l'entrée est libre.
Le film s'intitule Chromosome 3, c'est ça, tu l'as dit ?
C'est au titre français.
Oui. Et donc, c'est à l'invitation du groupe Libertaire d'Ivry.
Voilà.
On va peut-être en reparler à la fin de l'émission, rappeler cette annonce-là.
Si on a le temps.
Voilà. Oui, voilà. Débrief de la presse de l'Entonnoir. Donc, alors, il y a un film qui sort en ce moment, Au bord du monde, une immersion dans la dure réalité de l'hôpital psychiatrique. Donc, c'est un film qui sort en ce moment. Alexia, 25 ans, volontaire et idéaliste, arrive comme infirmière stagiaire dans le service fermé d'un hôpital psychiatrique. Malgré les avertissements de Joël, l'infirmière en chef, sur la distance à garder avec les patients, Alexia va se rapprocher de Mila, une patiente de 20 ans qui ne comprend pas ce qu'elle fait là. Touchée par sa colère, Alexia va remettre en question l'institution. Bon. Alors, je n'ai pas exactement la liste des endroits où ce film est encore
en projet. Peut-être que les gens peuvent chercher avec un moteur de recherche. Ça s'appelle comment, t'as dit ?
Au bord du monde.
D'accord.
Bien, autre chose, actu.fr, un article du 7 juin 2026. c'est un peu plus violent. Enfin, non, c'est pas plus violent, puisque la psychiatrie, c'est violent, mais... Accusé de viol par sa sœur, il obtient son hospitalisation psychiatrique. La cour de cassation tranche. C'est-à-dire qu'il psychiatrise sa sœur, qu'il a sans doute violée auparavant. Alors, une femme contestait son hospitalisation psychiatrique sans consentement, demandée par son frère qu'elle l'accusait de viol. La cour de cassation vient de rejeter son recours. Le lien familial justifie-t-il à justifier une hospitalisation psychiatrique sous contrainte ? Pour la Cour de cassation, oui, même lorsque le proche à l'origine de la demande est accusé de viol par le patient. Dans un arrêt publié au bulletin le 3 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le recours d'une femme qui contestait son hospitalisation psychiatrique sans consentement. Son principal argument, la procédure avait été engagée à la demande de son frère qu'elle accusait de viol. L'affaire trouve son origine en novembre 2024. La patiente est admise en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement francilien. La mesure est prise à la demande de son frère, conformément aux dispositions du Code de la santé publique qui permettent à un membre de la famille de solliciter une telle prise en charge lorsqu'une personne souffrant de troubles mentaux ne peut consentir aux soins et nécessite une surveillance médicale. Mais la femme conteste rapidement la procédure devant la justice. Elle soutient notamment que son frère ne pouvait être considéré comme un tiers légitime pour demander son hospitalisation, puisqu'elle avait porté plainte contre lui pour viol. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny ordonne alors la poursuite de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement de la patiente. Devant la cour d'appel de Paris, son avocate soulève la question de la régularité de la procédure. Les magistrats relèvent même que le frère est accusé de viol par la patiente. Malgré cela, ils considèrent que la demande d'hospitalisation reste valable. Pourquoi ? Parce que la loi distingue les membres de la famille et des autres personnes susceptibles d'agir pour un malade.
Tu veux dire qu'il pense qu'il est impossible que l'inceste n'existe pas, par exemple ? C'est un truc. c'est une vie de l'esprit.
Non, c'est pas dans les textes, peut-être. C'est pas, c'est... La seule qualité de frère suffit selon les juges. Pour les juges parisiens, lorsqu'il s'agit d'un proche non apparenté, il faut démontrer l'existence de relations antérieures permettant d'agir dans l'intérêt du patient. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un membre de la famille, cette qualité découle du seul lien familial. La seule qualité de frère suffit à lui donner qualité de tiers, écrit alors la cour d'appel. La patiente décide alors de porter l'affaire devant la cour de cassation. Dans son pourvoi, elle soutient qu'un conflit aussi grave avec son frère aurait dû conduire les juges à vérifier si celui-ci agissait réellement dans son intérêt. Selon elle, le seul lien de parenté ne pouvait suffire compte tenu des accusations portées contre lui. La plus haute juridiction judiciaire française ne suit toutefois pas ce raisonnement. Dans son arrêt rendu le 3 juin, elle affirme qu'un membre de la famille demandant une hospitalisation psychiatrique sans consentement n'a pas à justifier de sa qualité pour agir dans l'intérêt de la personne. Mmh. Autrement dit, dès lors qu'il existe un lien familial, la loi ne prévoit pas de contrôle supplémentaire sur les relations entretenues avec le patient ou sur l'existence d'un conflit entre eux. Alors que ça doit arriver souvent, très souvent dans les familles, des conflits et qui finissent par une hospitalisation.
Oui, mais j'ai même eu connaissance directement de cas comme ça. Mmh. Et en même temps, je me demande si ça a fait vraiment jurisprudence ou si, comme très souvent, surtout ce qui peut être des choses comme le viol, si ça dépend pas complètement, c'est pas l'arbitraire le plus total. Qui rentre en ligne de compte, si c'est, tu vois, selon si c'est quelqu'un qui, quelque part, on n'a rien à secouer que les femmes soient violées, ou si c'est quelqu'un qui est un peu touché par ça. Ça peut compter aussi. C'est, tu vois, tu lèves le pouce ou tu le baisses en fonction de.
Alors, pour finir, autrement dit, dès lors qu'il existe un lien familial, la loi ne prévoit pas de contrôle supplémentaire sur les relations entretenues avec le patient ou sur l'existence d'un conflit entre eux. La Cour souligne également que la décision finale d'admission n'est pas prise par le membre de la famille lui-même, mais par le directeur de l'établissement de santé sur la base de certificats médicaux. Donc c'est pareil, le diagnostic, il est établi de façon... Les magistrats rejettent donc définitivement le recours. Cette décision apporte une clarification importante sur les hospitalisations psychiatriques à la demande d'un tiers. Elle confirme qu'en droit français, le statut de membre de la famille bénéficie d'un régime particulier. Contrairement à un proche ou à une connaissance, il n'a pas à démontrer qu'il agit dans l'intérêt du patient pour pouvoir saisir l'établissement de santé. Une solution qui pourrait toutefois nourrir le débat sur les garanties offertes aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, notamment dans les situations de conflits familiaux particulièrement graves. Voilà, fin de l'article. c'est cours de cassation. C'est le Conseil d'État, je crois. Je sais plus. Alors... on va passer Wilhelm Reich. On va parler de Wilhelm Reich.
Tu peux parler de Wilhelm Reich ?
Je voulais rappeler en fait quelque chose sur Wilhelm Reich faire la transition, parce que c'est la semaine dernière qu'on parlait de Wilhelm Reich.
Et celle d'avant aussi.
et faire une espèce de transition avec ce qu'on va lire aujourd'hui, c'est-à-dire un extrait du journal Sexpol.
Oui, voilà, c'est un journal des années 70 qui en effet était énormément, enfin plus que basé sur Wilhelm Reich. Et il y fait référence toutes les 5 minutes et c'était vraiment la base, quoi.
Oui, alors c'était pour ça.
Sexpol, c'est un truc, un terme qui a été inventé par l'autre guignol, je veux dire, par Wilhelm Reich.
Oui, alors en 1931. Il se lance dans la création de la Sexpol, un mouvement de politique sexuelle à destination des prolétaires. De nombreuses organisations Sexpol de jeunes gens vont alors naître sous cette bannière, regroupant pas moins de 350 000 membres. Son idée est alors, bien sûr, d'unifier toutes ces associations. Son programme repose sur une logique impliquant capitalisme et répression sexuelle, et détaille 7 grands points qui connaissent un très grand succès. Distribution de contraceptifs gratuits aux plus démunis et une politique de contrôle des naissances afin de réguler l'avortement.
Tu te dis pourquoi pas. Si avec ça, tu te dis ouais, bien, cool.
Abolition des lois interdisant le recours à l'avortement et prise en charge gratuite de l'avortement. Aide financière et médicale durant la grossesse et l'allaitement. Abolition du mariage. Abolition du concept d'adultère. Liberté de divorcer, élimination de la prostitution par une rééducation et une transformation économico-sexuelle pour en éliminer les causes.
Ah purée, il faut toujours qu'on en arrive à l'histoire de l'éducation. On est tous ces enragés de vouloir t'éduquer, mais qui... Jusque-là, je me disais, ben ouais, oui, ok, je suis d'accord pour tous ces droits. Ça dit, t'as pas besoin d'être anarchiste, on a bien vu par la suite, pour te dire qu'effectivement, tu peux aller dans le sens de, par exemple, du droit à l'avortement et des choses comme ça. Hein. Moi, si j'avais eu que ça, moi, je me serais dit cool et tout. Mais par contre, non seulement ces théories farfelues, mais ces histoires d'éducation, moi, franchement, ça me rend enragé.
Alors oui, après, c'est éducation, prévention et élimination des maladies vénériennes par une éducation sexuelle complète. Prévention des névroses et des troubles sexuels grâce à une éducation sexuelle complète.
Tant qu'à faire.
Tu as des pieds à la tête, je ne sais pas. Donc, des névrosés, des troubles sexuels, prévention... prévention des névrosés et des troubles sexuels grâce à une éducation sexuelle adaptée, création d'une pédagogie sexuelle...
Et tu vois, regarde, le truc que je trouve abominable, c'est qu'on commence un peu par t'allumer avec des trucs où tu dis tu peux être que d'accord. Enfin, franchement, comment est-ce que, par exemple, on pourrait être contre l'idée du droit à la contraception, à l'avortement, bon, interdiction du mariage, moi je dis si les gens qui y veulent, enfin bon, je suis toi, interdit, tu as voulu te marier, je t'ai vu, et tout. Bon. Ok, mais enfin, c'est pas grave quand même. Mais je veux dire, et tout d'un coup, tu sais, ça c'est la vaseline, mais après t'as le gros on va t'éclater l'oignon avec le truc qu'il est en train de dire là, et tout d'un coup tu sais ça passe comme ça dans la foulée, un truc où tu dis ouais d'accord, oui ça va, oui je suis d'accord. Et puis tout d'un coup, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de guérir des névroses? Mais ta gueule, quelle névrose? Non mais franchement, non mais tu vois, c'est ça aussi, tu commences par dire ouais c'est bien, non vraiment je suis vraiment très très
voilà. Très alors il y a un autre point qui est intéressant, c'est remplacement des punitions pour crimes sexuels au travers de meilleures méthodes d'éducation. Punition pour crimes sexuels. et élimination de leurs causes économiques. Alors, je sais pas si c'est d'économie pécuniaire ou d'économie sexuelle, je sais pas.
Je suppose que c'est économie pécuniaire, et je me rappelle qu'on avait lu justement dans une page Wikipédia sur Brecht que tout d'un coup, il avait eu une illumination parce qu'il était allé chez une ouvrière et qu'il s'était rendu compte que dans les conditions de vie où elle était, que ce soit logement ou travail, c'était pas de la tarte pour faire des partouzes éclatantes quand elle avait fini sa journée, tu vois. Donc, effectivement, il avait ouvert des maisons qui spéciales pour que les gens combattent leur... que tu te dises, faut pas travailler, ok, mais c'est quand même plus facile quand tu sors de la cuisse à Jupiter, de pas travailler et de survivre quand même, surtout à une époque où t'avais même pas les minima sociaux. Donc, c'est pas... Tu vois, c'est... Ça partait d'un bon sentiment, mais c'est un peu pimpin.
Et là, une dernière phrase. Protection plus stricte des enfants et des adolescents contre la séduction des adultes.
Tiens. Ouais. Bah, c'est bizarre parce que... Alors ça aussi, ça part vraiment d'un bon sentiment. Mais en réalité, par exemple, le journal Sexpol, récemment, je crois que c'était il y a un an ou deux, pas plus, celui qui a édité ce journal a édité un petit bouquin qui n'a pas eu de succès du tout, d'ailleurs, parce que c'est quand même un peu pointu, pour revenir sur le fait qu'à l'époque, le journal Sexpol, justement, qui citait donc Reich tout le temps, faisait tout le temps l'éloge de la pédophilie. si tu veux. Mmh. Et donc, justement, je me méfiais par rapport à Reich, parce que beaucoup de pédophiles, par exemple, il y avait un article de Guillon qui expliquait qu'il était mortifié que Libération lui avait refusé une petite annonce où il cherchait des filles de 11 à 16 ans. Et donc,
comme partenaire.
Mais par la séduction. Et que sans arrêt, dans ce journal, il était question du droit à la sexualité des enfants, enfin, etc. Et qu'il fallait surtout, c'est ce que disent souvent d'ailleurs les pédophiles dans des sites comme le site Miel, c'est le mouvement international pour une écologie libidinale, ils sont à mort pour la pédophilie, mais attention, pas la pédocriminalité, donc uniquement la séduction. Donc je trouve que c'est bien de la part de Reich, enfin apparemment, enfin, c'est comme pas un gars, il n'avait pas que des défauts non plus.
C'est une de ses intentions.
Il avait l'air d'un brave zig.
C'était une de ses intentions qui a visiblement a été oubliée. Quoi, finalement.
On faut croire. Donc le mec était revenu dessus, mais j'avais eu un peu une polémique avec lui, celui qui faisait Sexpol, parce que il n'allait pas très très loin en réalité dans son autocritique. Le fait est qu'on a quand même changé d'époque par rapport aux années 70 sur la tolérance envers la pédophilie. Hein. Oui. Donc, mais il n'était pas allé assez loin dans l'autocritique, je trouvais. Donc il faut que je retrouve la polémique que j'avais eue avec lui sur un site qu'il avait créé par rapport à ce bouquin.
Je voulais aussi parler de ce qui est, ce que, donc l'héritage justement, l'héritage de Reich, c'est-à-dire qu'est-ce que des gens ont fait avec cette nouvelle discipline, on peut dire.
Il y avait des trucs qui pouvaient, bon, sur la pédophilie, en effet, il semble pas du tout qu'il a été dans cette direction-là, Reich. Donc c'est toujours ça de pris, hein. Faut pas lui faire porter des chapeaux qu'il mérite pas, le pauvre. Mais enfin, il est quand même un peu farfelu, faut être honnête, c'est un peu n'importe quoi. Et le problème, c'est que c'est pareil, ça part d'un bon sentiment de vouloir avoir à la fois un discours révolutionnaire et un discours sexuel. Et on voit bien, enfin un discours sur l'idée de la sexualité, on voit bien que dans le journal lui-même, là, dans les articles, en particulier d'une des revues, j'ai trouvé ça dans une brocante, en fait, ces journaux, ces Sexpol.
Il date de quelle année?
Oh, 75
ou quelque chose comme ça.
Enfin, c'est les années 70, je ne sais plus exactement, mais c'est les années 70, et donc... En fait, le truc, c'est que ils se basent vraiment énormément sur Reich, mais le truc, c'est qu'ils veulent faire, en effet, comme son nom l'indique, Sexpol, à la fois parler politique et parler sexualité. Mais je vais dire les choses comme je les pense. En réalité, c'est bête, mais c'est de questions qui sont pas séparées à proprement parler. Mais si ça marche dans un sens, à savoir que, bien entendu, si jamais on vivait dans des meilleures conditions économiques et sociales, ça aurait un impact sur la vie sentimentale et sexuelle des gens, puisque, en effet, pour reprendre l'histoire de l'ouvrière, bah, quand t'es crevé par ta journée de boulot et que tu vis dans un appartement où, enfin, je sais pas, où soit t'es entassé, ou soit quand t'es carrément SDF, enfin, je veux dire, il est évident que l'aspect économique, l'aspect, le travail en particulier, peut avoir un impact même sur ta vie sexuelle. Ça veut pas dire que l'inverse est vrai. Enfin, si tu veux, tu vois. Ça veut pas dire que parce que tu vas t'être éclaté au plumard, ça va arranger tes affaires, ça va venir à bout des injustices sociales.
Oui, c'est-à-dire que...
Tu vois ce que je veux dire.
L'idée freudo-marxiste, au départ, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'on allait devenir tous... beaucoup plus vertueux grâce à la libération sexuelle, et on serait tous plus forts et plus intelligents pour faire la révolution marxiste.
Voilà, et puis bon, effectivement, par rapport, parce que dans Sexpol, l'idée de l'analyse, puisqu'on en revient, l'idée c'était aussi la psychanalyse, c'est que quand tu fais une éducation ou que tu fais de l'autocritique au point de vue psychanalytique, justement, comme tu deviens quelqu'un de plus cohérent, de plus lucide et tout, bah tu seras forcément également lucide sur le plan politique.
Voilà.
Ce qui est déjà à démontrer. Mais ensuite, en effet, c'est un peu la poule et l'œuf. Tu te dis que... Puis le problème, c'est que, par exemple, là, si celui que je vais te donner à lire aujourd'hui, enfin, que je... voilà, qui est une critique, enfin voilà, comment dire, dans ce spécial militantisme, il faut le dire déjà, il y a même eu un livre de Toby Nathan qui expliquait que les militants étaient tous des névrosés, quoi. Mais c'est l'idée générale. Et de toute façon, comme je te disais tout à l'heure, des militants, il n'y en a pas tellement, quelle que soit l'obédience d'ailleurs. C'est pas quelque chose de très courant, le fait d'être prêt à se battre pour ses idées. Pour, par exemple, mais déjà la confusion qu'ils font tous, article après article, enfin toutes, c'est plutôt des femmes qui écrivent en se plaignant, par exemple, que c'était pas la joie avec leur mec qui était militant, mais comme si tous les militants se valaient, comme si c'était pareil. Par exemple, c'est vrai que quand il y a eu l'histoire de Clément Méric, Pierre Carl a écrit un article pour dire que Clément Méric ou le mec qui l'a tué, c'était la même engeance. Et les deux étaient des militants, donc c'est pareil, tu vois. Être antifa ou être facho, c'est pareil, ouais, tu vois. Et en effet, c'est quelque chose que t'entends souvent. Là, c'est plutôt des militants un peu Mao, staliniens, voire facho. C'est pareil, parce que c'est des militants. Enfin, tu dis comme si tu disais, si t'es un écrivain facho ou un écrivain antifacho, c'est pareil parce que les deux sont des écrivains. Je veux dire, c'est vraiment. Et alors que, ouais, ils se battent, mais en fait, sur le fond, ils ont des points communs. Et le point commun, d'ailleurs, c'est une névrose, parce que c'est une maladie. Et si tu veux, dans l'idée même de normes, l'idée que tu débordes d'un millimètre en quoi que ce soit. J'ai retrouvé le bouquin de Janoff, Le cri primal, où il y a tout un chapitre sur la normalité. Parce que lui, l'objectif, c'est de devenir normal. Mmh. Et tu es normal quand t'as rien qui déborde, rien. Tu n'écoutes que de la musique classique, pas de la musique de sauvage. Tu tortilles comme c'est pas très normal de se tortiller, tu vois. Voilà. T'es pas homosexuel parce que ça, non, oh, et tout. Non, c'est pas normal. Enfin, tu vois, cette idée de normalité, tu vois. Et en particulier, faut reconnaître que peu de gens sont capables de comprendre, on va dire, l'altérité. C'est-à-dire que quand t'es pas toi-même militant, t'as l'impression que les gens doivent, ça doit être pour faire un genre, ou que vraiment ils ont un pet au casque et tout, les fils qui se touchent, enfin pas la lumière à tous les étages, enfin tu vois cette idée là et que ça peut pas être, enfin comme ils comprennent pas pourquoi, ça peut être que c'est une maladie, si tu veux. Et mais cela dit, par exemple, il y a des gens aussi qui pensent ça, des gens qui aiment lire. Moi, ma mère qui quand elle a lu Placide et Museau, déjà bobo la tête. Alors tu vois, l'idée qu'on lisait des bouquins même politiques, elle avait sous-entendu que c'était pour faire un genre, parce qu'elle comprenait pas pourquoi tu ferais un truc comme ça. Tu vois. Et donc le fait d'être d'avoir des idées et d'être par exemple choqué par les injustices sociales, c'est pas quelque chose qu'ils comprennent du tout. Parce que ce qu'il faut, c'est, bah, par exemple, on voit, elles reviennent, les femmes qui critiquent les militants dans ce journal, mais j'en ai vu dans d'autres endroits. Elles disent, ce qu'il faut, c'est la joie de vivre, c'est la vie, etc. Et, bien sûr, le militant, d'ailleurs, elles disent le militant, comme si c'était un bloc d'agglo, comme ça.
Avec un M majuscule.
Oui, voilà, comme on dit la femme. Ouais. Bon, bah, il y a le militant, et peu importe son obédience, premièrement. Et deuxièmement, même dans une même obédience, t'as toutes sortes de gens quand même. Même si, bien sûr, selon la catégorie dont tu fais partie, enfin, je veux dire, un trotskiste et un anarchiste, c'est pas la même chose. Mais ça, c'est un truc que les gens prennent même carrément pas au sérieux. Mais c'est vrai dans des tas d'autres domaines, parce que, regarde, par exemple, le fait d'avoir des choix au point de vue politique et intellectuel. Je me rappelle, une fois, avec Sans Remède, on avait fait un débat à Publico, il y avait une femme qui avait dit « Ouais, vous voulez pas défiler à la Mad Pride avec telle catégorie, oh là là, les gardes-chapelle et tout », et le gars de Sans Remède lui avait dit « Attends, c'est pas des gardes-chapelle, on a des bonnes raisons ». Mais c'était pas pris au sérieux du tout. C'est oh, les histoires, c'est histoire de faire des histoires, c'est se disputer pour se disputer. Ouais. On te prend juste pas au sérieux.
Oui.
Non ?
Oui, oui. Bon.
Tu vois, je veux dire.
Bon, et puis il y a une certaine malhonnêteté aussi dans ces propos-là, quand même.
Moi, j'avais l'impression que justement, ils étaient. Ouais. T'as peut-être raison, mais moi, j'avais l'impression qu'ils étaient sincères. Ouais. Que c'est vraiment. Ils prennent vraiment pas au sérieux. Ouais, qu'ils y croient pas.
Les années 70, c'est une époque où vraiment, c'était vraiment très à la mode, la psychologisation, la pathologisation des.
Ah oui, c'est encore autre chose que le fait de ne pas prendre au sérieux, t'as raison. Mais encore maintenant, tu peux entendre des trucs comme ça si les gens ont une attitude, quelque chose d'un peu... Bah moi, je te dis pas, par exemple, j'aime les films d'horreur, j'en ai entendu de toutes les couleurs, que c'était parce que si, parce que ça, enfin bon. Si jamais tu t'es un peu excessif, quel que soit le domaine, il faut pas que ça dépasse non plus, tu vois. Donc tu vas te retrouver avec une psychologisation. Et par exemple, je vais te donner un exemple qui va forcément parler à tout le monde, c'est les histoires de pervers narcissiques. Avant on disait ce type est un connard. Et maintenant Vlan, c'est un pervers narcissique. Et je sais pas, j'ai mon fils qui s'est chez l'école. Et à une époque, on appelait ça faire l'école Bissonia. Maintenant, c'est de l'absentéisme scolaire et c'est un symptôme. Enfin, tu vois, je trouve que c'est toujours très, très tendance.
C'est toujours très. Voilà. Toujours très.
Alors, donc, juste avant que tu lises le truc, je ne sais pas si on arrivera à lire tout en une fois, mais bon, c'est juste une citation de Reich que je trouve assez. Parce que, quand même, faut dire, il est quand même un peu bouffon. Quand même. Son truc, je vais faire pleuvoir dans le désert. Enfin, bon. Donc voilà ce qu'il dit. Mes expériences en matière d'analyse caractérielle m'ont installé dans la conviction qu'il n'existe pas un seul homme vivant qui ne porte dans sa structure caractérielle les éléments de la sensibilité et de la pensée fasciste. Bon, alors, je ne sais pas si tu as des commentaires à faire sur une telle affirmation.
Ouais, je ne sais pas, il faut que j'entre en pleine introspection pour vérifier si vraiment est-ce que j'ai dû.
T'es dans le déni. Non, mais en plus, franchement, c'est pas pour dire, mais c'est un type qui se l'a pété quand même grave. Hein, je veux dire, il va faire pleuvoir dans le désert, il va résoudre tous les troubles sexuels de l'humanité. Il va aussi résoudre le fascisme, il va le crever sous lui, enfin bon, etc. Mais là, il connaît tous les. Il n'existe pas un seul homme vivant. Tu te rends compte, le mec?
Ouais, il a psychanalysé plusieurs milliards de personnes.
Voilà, c'est son problème. Donc voilà, pour te dire. Donc c'est quand même bien qu'au moins il n'était pas pro-pédophile, c'est toujours ça de pris. Mais donc voilà, donc le truc c'est que si tu veux, il y a plusieurs témoignages dans le journal de femmes qui ont fréquenté bibliquement, on va dire, je plaisante mais bon, un militant et qui ont vu à travers ce militant la figure du militant en général. Et bien entendu, comme visiblement ça s'est pas tellement bien passé, en particulier elles étaient pas très satisfaites de la prestation
masculine
de Plumard. Bon, et en plus apparemment elles disent que le mec était un macho. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais est-ce qu'il y a que les militants à ton avis qui sont des machos? Tu peux prendre n'importe quelle catégorie d'individus, tu vas en trouver des machos. Je veux dire, c'est pas une spécificité militante. Donc voilà, je sais pas si on pourra tout jusqu'au bout, mais on pourrait le faire en plusieurs fois, parce que je trouve que c'est intéressant. Oui, l'article, voilà. C'est la débandade du camarade pur dur. Bon, d'entrée de jeu, on sent qu'il y a quand même un peu de la vengeance sur le four. Hein, que...
Oui, oui.
Hey, camarade pur dur, mais c'est cet militant, mais tu t'es plus radical. Ah, tiens, tu la connais peut-être pas celle-là, mais moi, en tant que militante, je la connais. C'est quand tu dis que t'es pas d'accord avec telle ou telle façon de faire quand t'es dans un groupe militant où il n'y a pas que des anards, plus radical que moi tu meurs. Bon, alors que moins radical que moi tu meurs. Voilà.
Quand je repense à mes rapports profonds avec un soldat de la Révolution, cela me semble presque irréel, tant la situation s'allie parfois à celle d'un véritable mythe où le héros vit à mes côtés mais sans que l'on se rencontre vraiment. Le héros, c'est le militant par devoir, par sacrifice, se façonnant tant bien que mal son épaisse mais combien brillante cuirasse de dur et pur, uniquement dévouée à la Révolution avec un R majuscule.
Alors, oui, tu vois déjà le truc qui est récurrent dans tous ces témoignages, hein, d'ailleurs, mais celui-là en particulier, c'est qu'elle n'imagine pas un seul instant que tu puisses sincèrement, par exemple, je ne sais pas pour ce mec, puisqu'on n'a pas son point de vue à lui, être révolté, par exemple, par les injustices sociales. Alors, premièrement, ça a l'air d'être plutôt un Mao ou un trotskiste ou quelque chose comme ça, mais ce qui n'est pas du tout pareil que d'être anarchiste, par exemple, mais pas du tout. Mais par ailleurs, même un militant Mao, il peut se tromper, mais je peux pas lui faire un procès d'intention pour dire que c'est seulement pour se la péter chez le héros, quoi. Tu peux, après tout, mais à aucun moment elles imaginent, par exemple, qu'on puisse être révolté, voilà, par les injustices sociales. À aucun moment. D'ailleurs, elles voient même pas de quoi il est question. Il suffit de voir les, tu sais, un peu comme dans la vie de Brian, il faut voir les bons côtés de la vie. Et puis c'est bon. T'es content.
Alors oui, donc c'est toujours, donc c'est un extrait de Sexpol.
De Sexpol, voilà.
Quelle révolution? Mais la seule, la sienne, la violence, la violente, la dure et la pure, pour arriver à quoi? Au bien-être. Lequel? Ah, eh bien, celui que l'on désire, je sais pas, c'est l'inconnu. Voilà une flagrante contradiction. Essayer sans cesse de se donner des moyens toujours plus parfaits, plus radicaux, pour une fin qu'on ne veut pas trop penser, encore moins imaginer, et pas du tout essayer de vivre.
Oui, mais alors là, tu vois, bon, j'irais pas juste à dire qu'elle est complètement idiote, mais si, je le pense un peu quand même. Je veux dire, des remarques par rapport à sa remarque, c'est que il est, en effet, c'est même quelque chose que je revendique. D'ailleurs, je ne sais pas exactement quel moyen utiliser pour y arriver, parce que faut dire qu'on n'est quand même pas rendu à la fin du capitalisme. Mais en effet, comme disait une copine du groupe, d'ailleurs, très justement, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Ça, c'est plutôt un truc, d'ailleurs, de le fait d'avoir déjà à l'avance, tu sais, un programme de ce que va être la vie après une révolution. Mmh. En revanche, je sais ce que je veux pas. C'est-à-dire que les injustices, par exemple, les violences, les injustices, toute forme de pouvoir, voilà, quoi. Tu te dis toutes sortes de choses comme ça que tu ne veux pas. Mais en revanche, te dire, ah bah, tu sais pas exactement ce que c'est, bah non. Non, on ne sait pas exactement ce que ce sera. Ça, c'est quelque chose que c'est pas à toi de faire un programme à l'avance pour savoir comment, si jamais on n'avait plus toutes les formes d'oppression qu'on peut avoir actuellement, comment est-ce que ça se passerait? Comment est-ce que, d'ailleurs, quelle conception de la sexualité ou du bonheur ou du plaisir on aurait? Ça, c'est quelque chose qui serait laissé complètement au libre arbitre des individus. Donc effectivement, tu sais pas trop ce que c'est. Et en revanche, tu sais que il va falloir combattre, parce que c'est juste cohérent. Tu dis les privilégiés se laisseront pas faire, et ça sera pas avec leurs petits bras, mais avec la police, l'armée. Enfin, c'est quelque chose que tu sais que tu vas devoir combattre effectivement pour la fin des injustices sociales. Donc le fait de se moquer du fait qu'il sait pas exactement ce qu'il veut, je trouve ça grotesque, quoi, déjà d'entrée de jeu. Bon. Mais enfin, visiblement, elle avait des comptes à régler, hein, avec ce mec.
Oui, apparemment, ouais, c'est ça. Donc, alors, faut-il être masochiste, passive, faible, je m'en foutiste ou inconsciente pour supporter une relation avec ce guerrier? Certes, ces caractères sont si souvent imputés aux femmes. Au début, je ne nie pas une certaine admiration de ce don de soi pour la cause qui me semblait juste, changer la société pour atteindre la possibilité de vivre heureux. Mmh. Je culpabilisais devant ce vieux militant d'avant 68, moi qui n'ai vraiment éclaté qu'au printemps 68. Je ne parlais guère, je n'avais pas tout lu, tout vu, je ne savais pas théoriser. Je ressentais simplement une profonde révolte et une envie intense de vivre autrement et rapidement.
Mais... Ah oui, là tu vois, c'est là aussi qu'il y a un malentendu, et malheureusement j'ai vu ça plusieurs fois aussi. Des femmes qui s'adaptaient aux militants, faisaient même des fois semblant d'être vraiment intéressées par le militantisme anarchiste, par exemple. Je pense pas qu'il était anarchiste spécialement le mec, mais je veux dire parce que elles étaient amoureuses du mec. Mais après, elles en faisaient, quand à un moment donné elles en ont marre parce que c'est pas sincère, elles en font le reproche au mec. Mais je me rappelle que le mec disait, moi je pouvais pas deviner que tu faisais semblant. Tu vois, mais c'est vrai quand même. Donc, mais elles en veulent au mec, mais le mec pouvait pas deviner. Enfin, moi je trouve, quant au fait de dire je veux vivre maintenant, ben écoute, c'est autre chose. Tu dis, après tout, le fait de vouloir vivre le plaisir maintenant, c'est quelque chose qui effectivement est pas très compatible avec l'idée d'être, par exemple, d'avoir de l'empathie, de la solidarité et d'être touché par les injustices. Si tu veux, à part ça, tu peux le faire quand même temps. Mais en effet, c'est pas la même chose du tout. Enfin, moi, je sais pas. Hein. Je peux te dire que même si, par exemple, si je suis touchée par les injustices, ça m'a jamais empêché d'avoir aussi des moments où, on va dire, je m'éclate, quoi, tu vois. Donc, je veux dire, cette façon de cliver comme ça, de dire si tu veux, quand tu es du genre à vouloir vivre, bah, du coup, les injustices sociales, t'en as rien à carrer.
Il y a quand même une différence entre la réalisation du socialisme libertaire, ou je sais pas, et le fait de vouloir avoir une vie intense et de vivre autrement et rapidement. Quoi.
C'est oui, mais c'est-à-dire que tu peux effectivement, t'en profites, mais enfin, ça t'empêche pas. Tu te dis, si tu te contentes de ça, c'est que t'es un petit peu, c'est que effectivement, t'es pas très touché par autre chose que ton nombril. Faut voir les. Mais je suis touché par mon nombril, hein, si j'ose situer les choses à cette hauteur-là. Mais je veux dire, mais à part ça, je suis pas touché que par ça, et ça a pas l'air de vouloir l'envisager, on dirait.
Mais l'intuition, la réceptivité ne sont pas prisées dans le militantisme dur et pur. Il s'agit surtout d'intellectualiser, rationaliser, radicaliser, planifier et aussi pratiquer de la stratégie, que diable. Alors, nous voulons pas jouer le seul rôle du repos du guerrier, rôle méprisé et méprisable, j'ai entrepris un véritable domptage des instincts vers une pratique militante révolutionnaire. Je me militantisais.
Tu vois, c'est ce que je te décrivais tout à l'heure. Et c'est vrai, il y a des femmes qui font ça. Mais est-ce que c'est la faute du mec? J'ai pas eu l'impression les fois où j'ai vu ça. J'ai eu l'impression qu'effectivement, elle le dit elle-même. C'est d'elle-même qu'elle s'est dit, j'ai comme alternative... soit effectivement je suis un wagon, une valise, soit je vais faire comme lui pour pouvoir le rejoindre, alors que en fait la différence entre eux, c'est que lui est éventuellement sincère et elle non. Et donc à partir de là, je trouve que la relation est juste pas possible, quoi. Et qu'il aurait fallu plutôt renoncer dès le départ, parce qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, c'est tout.
Mais je n'arrivais pas à trouver un équilibre. Sans arrêt, c'était concession, effort, dépendance, volonté, cafard, espoir, ras-le-bol, dégoût, la bonne cyclothymie. Pas bien marrant. Mais retrouvons le héros tel que je pouvais le connaître. Le héros, c'est le type même du phallique narcissique. Deux termes qui s'expliquent facilement. Phallique, fier de son phallus, identification au pouvoir du phallus. Narcissique, imbu de son image. Le physique, c'est le beau mec, bien proportionné, imposant, viril. Mais quelle importance pour lui, sinon par l'apparence de cette virilité si conforme et nécessaire au rôle qu'il se donne?
Ah oui, mais alors tu vois, ça y est, on est parti. Mais alors ça n'arrête pas. Hein. On est parti dans les diagnostics psy.
Oui, excuse-moi. Voilà, exactement. Oui.
Tu peux dire, on aurait pu dire autrement. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était vraiment ça, parce qu'on n'a que sa parallèle. Hein. Mais le mec est plutôt fier de sa bite et de son physique avantageux. C'est pas une spécificité des militants.
Du militant, oui, c'est sûr.
Et voilà, et puis c'est peut-être un macho, effectivement, mais ça non plus, c'est pas une spécificité du militant. Voilà. Même si on ne sait pas ce qu'il en était pour de vrai, puisqu'on n'a que sa parole, encore une fois.
Il parle beaucoup, et bien, c'est l'habitude. Le ton rappelle celui d'un ordre, il faut savoir se faire entendre et comprendre. Son attitude brutale fait apparaître parfois l'image du para. Les extrêmes se touchent.
Tiens, ça faisait longtemps, celle-là.
Ouais. C'est toujours cette histoire de faire... C'est la même chose, en fait, c'est ça.
C'est pareil. Les fachos, les antifas, c'est les mêmes.
En fait, un seul leitmotiv, l'agressivité, encore et toujours. Sans agressivité, on ne peut pas entreprendre l'activisme révolutionnaire. Il faut avoir une position offensive, sinon l'on se fait avoir.
C'est quand même pas faux. Imagine, même, je suis pas très syndical, je suis pas spécialement sur le plan syndical, mais par exemple, mettons que tu veux lutter contre les patrons, ou toutes sortes d'exploiteurs et de, tu vois, il n'y a pas de mystère. tu vas pas y aller avec des fleurs et des poèmes. Enfin, c'est un truc, on avait d'ailleurs projeté les combattants de l'ordre pour dire, il y a des andouilles qui vont essayer de baratiner les flics, tu sais, les CRS et tout, dans l'espoir que ça va marcher. Et non seulement ça marche pas, mais t'es sûr de déclencher une attaque. Non, mais c'est vrai que tu dis, en effet, il n'y a pas de mystère, il faut une bonne part d'agressivité si tu veux être activiste. Regarde même les écolos. Ça se fait pas, ça se fait pas en faisant des bisous. Je veux dire, c'est, il y a pas de mystère. Il faut aller un peu à l'attaque quand même pour quand tu veux lutter contre, je sais pas, l'installation d'une centrale nucléaire par exemple, ou contre Bayer Monsanto. Bah ouais, faut un peu d'agressivité. Ça se fait pas dans la douceur. Enfin, je sais pas toi qui. Enfin, sur ce plan-là, c'est, il y a quand même pas de mystère.
Mais non, c'est clair. D'ailleurs, en face, eux, ils cherchent pas à se faire aimer, ils cherchent à se faire craindre, de toute façon. Donc.
Bah oui, et puis si jamais tu veux avoir une chance de que ça s'arrête, parce que t'es vraiment sensible aux horreurs qu'ils font, bah ça va pas être en leur faisant des poèmes, hein. Oui. C'est clair. Enfin bon.
Bah oui, la peur doit changer de camp aussi.
Bah oui, ça. Oui, ça c'est bien vu, comme ça. Ouais.
Donc, il faut avoir une opposition offensive, sinon on se fait avoir. Et par ce comportement jamais en porte-à-faux, s'installe une attitude de supériorité portée par un réel désir d'inaccessibilité. Son moi est toujours en premier, il est le phallus, il est le chef. Il faut une bonne organisation, donc le leader s'impose. Et qui d'autre peut le devenir sinon lui.
Alors, je vais pas nier que même chez les anarchistes, il y a des gens qui sont plus autoritaires que d'autres. Mais justement, dire que c'est quelque chose qui est commun à tous les militants, c'est vite dit quand même, je trouve. Plus que vite dit.
Oui. La survie. Bien sûr, sont esclaves ceux qui le veulent.
Bon.
Bah, déjà, c'est pas bien sûr du tout. Mais...
Peut-être, est-ce que c'est pas du second degré? Parce qu'elle veut dire... Lui, il trouve que bien sûr. Voilà. Ah, bien sûr. Enfin, tu vois que c'est plutôt ironique, quoi. Parce que c'est pas facile quand c'est écrit. Ah, il dit, oui. Oh, bah, bien sûr, hein, les seuls qui sont soumis, c'est ceux qu'ils veulent. Et moi, je suis pas d'accord avec ça.
Non, hein, déjà. Puis, il y a cette espèce de mythe de la servitude volontaire.
Oui, mais alors, peut-être qu'elle le dénonce, ce mythe. Ouais. Et à ce moment-là, je serais d'accord. Mais en même temps, en effet, ça existe aussi des gens qui sont un peu trop résignés, malheureusement, qui vont, par exemple, des femmes qui vont trouver que c'est mieux quand un mec est macho et tout. Mais c'est pas que ça n'existe pas du tout. Mais j'ai l'impression que elle dénonce ça plutôt en disant ça.
Je poursuis. Bien sûr, ils sont esclaves ceux qui le veulent, mais le désir le désir du pouvoir l'entraîne tout naturellement à dominer et par là à écraser. Car si l'un des fidèles craque, s'échappe de son lien, il est vite méprisé avec une froide logique. Il n'était pas motivé. Il a conscience du rôle identifié au père qu'il tient et est prêt à en assumer les conflits potentiels.
Oh là là. Non mais par contre, c'est vrai que regarde, quand tu dis ça comme ça, c'est un froid mépris. Mais en effet, je veux dire, par exemple, ça fait longtemps que je suis dans un groupe militant. Je suis beaucoup moins activiste qu'à une époque pour des raisons diverses et variées. Mais en effet, il y a un gros turnover dans les groupes militants. Mais
oui, oui,
très très gros. Et en effet, je saurais pas dire autre chose quand les gens s'en vont qu'ils étaient pas motivés. C'est pas un froid mépris, c'est un constat. Je veux dire, tu te dis t'es pas motivé. C'est pas... Je vois pas pourquoi oui, ça serait un froid mépris. C'est juste, qu'est-ce que tu veux dire d'autre?
C'est ça qu'on sait pas si là, c'est pas vraiment un exemple, mais c'est pas non plus une généralité. C'est un peu un truc entre les deux.
Oui,
peu,
et puis y a rien d'autre à dire. Quelqu'un qui finalement se dit c'est pas pour moi. Je te jure que j'ai même pas compté combien de fois c'est arrivé. Et bah en effet, il y a rien d'autre à dire qu'il était pas motivé. Et c'est pas du mépris du tout, c'est que je suis, moi par exemple, profondément convaincue que militant, c'est un caractère. Et que c'est un type de caractère comme ça, où plein de gens ont les mêmes idées, mais je le suis beaucoup moins qu'à une époque, activiste. Bah donc je vais sûrement pas mépriser des gens qui sont pas activistes pour ça, mais je connais des gens qui sont vraiment très très dynamiques et que j'admire pour ça. Moi je le suis moins et j'ai toujours été beaucoup moins que certains quoi et certaines. Et voilà, je trouve que c'est bien d'être motivé comme ça, mais j'ai pas de mépris pour les gens qui dont c'est pas le truc. Quoi, tu vois, c'est vraiment, enfin, reconnais-toi qui est quand même, excuse-moi, depuis le temps que je te connais, je sais que tu fais partie des gens très très activistes, malgré tout. On s'est suffisamment rencontrés de fois sur le terrain pour le savoir, et c'est particulier quand même de vouloir aller sur les luttes de précaires, sur les luttes de sans-papiers, par rapport à tout ce qui peut être aussi le logement, en ce qui te concerne beaucoup aussi par rapport à la résistance à la psychiatrie, l'écologie, t'es plus écolo que moi, tout ça c'est quand même... Tu fais partie des gens très activistes.
Oui, enfin, c'est... Peut-être, oui. Après, par rapport à l'action, il n'y a pas de... Il y a beaucoup de réflexion et de propagande, je dirais, peut-être, que d'action.
C'est les deux. Ouais. Parce que Denis fait un petit bulletin écrit et dessiné qui s'appelle Courrier mensuel. T'en es au numéro ?
Le Courrier mensuel, oui. Numéro 114, je crois.
Waouh ! Quand même, hein, c'est rare hein, chez les fanzines. Et on se procure comment en te contactant, je suppose.
Ouais, c'est-à-dire que tu me donnes ton adresse, je te le livre. Donc,
il est à Publico, je crois bien.
Ça fait longtemps que je n'en ai pas déposé à Publico, il faudrait que je renouvelle, effectivement.
En tout cas, si vous vous adressez à Publico, il y aura moyen d'essayer de se le procurer. Et donc, comme Denis est un très bon dessinateur, il faut le dire, en plus, donc, tu sais, sous forme de BD, et tu racontes, entre autres, des actions à quoi tu as participé.
Oui. C'est vrai. Mais justement, je raconte plus tellement parce que je participe plus tellement à des actions actuellement.
Ah, toi aussi.
Mais voilà. Mais en même temps, bon, bah je.
Bah, il y a la Mad Pride qui va y avoir bientôt.
C'est vrai, oui. Ben, il faudrait. C'est vrai. Bon, ben, d'ailleurs, on en reparlera sans doute dans l'émission L'Entonnoir. Ouais. Parce qu'on a déjà, on était déjà, on avait déjà commenté celle de 2025.
Et donc, bah oui, voilà, enfin, en tout cas, je peux te le dire, tu fais partie des rares, très, très rares personnes qui sont à la fois, par exemple, artistes et qui sont militants. C'est très, très, très rare. Et en général, quand un artiste ou un intellectuel patenté est militant, c'est purement virtuel. Enfin, je veux dire, c'est sûrement pas aller coller des affiches, aller dans des manifs, aller dans des actions, aller dans des rassemblements. C'est pas ça. Tu fais pas nombre parce que t'es au-dessus de ça, quoi. Tu vois, c'est malheureux, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, en tout cas, tu sais ce que c'est que d'avoir ce caractère-là, quoi.
Oui.
Et donc, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. On te prend pour pourquoi tu fais ça, tu vois, c'est, et sûrement tu dois avoir effectivement un problème, quelque chose que tu cherches à démontrer, enfin tu vois, bon voilà. Oui. Ça doit être ça, quoi d'autre. Donc vas-y, continue. Alors le diagnostic de cette
Alors oui, il se forge un personnage haut en couleur, sûr de lui, mais il a des moments de rupture, c'est la déprime, le creux de la vague. La révolution ne vient pas assez vite, mais est-il vraiment capable de la souhaiter ?
En voilà aussi un diagnostic. C'est sûr qu'elle vient pas assez vite, et le mot est faible.
Oui.
Mais le fait de se demander s'il est capable de la souhaiter, je trouve que c'est un peu gratuit comme diagnostic, non ? C'est, voilà.
Son comportement rigide ne cache-t-il pas un moyen de défense contre lui-même ?
C'est vrai, on se demande.
Ça commence à se compliquer.
Oui.
Il refuse son propre moi, entre guillemets, en tant qu'héros. Empêtré dans ses problèmes, il s'oblige à mener une vie misérable, la survie. C'est le choix calculé de Thanatos. Il faut offrir aux autres une image lamentable. On ne cautionne pas le système.
Alors, excuse-moi, mais aussi c'est quand même un peu tortueux, parce que d'un côté, il se voit en héros avec une belle cuirasse, et d'un autre côté, il faut qu'il joue un rôle de minable, si j'ai bien suivi.
Oui.
Donc bon, c'est pas grave.
Oui, c'est un peu contradictoire. Mais nous faut-il alors adopter sa survie ? Le spécialiste du purisme et de la dureté est seul et sans révolte. Ce « je ne peux que survivre », traduisez « alimentation équilibrée », pas le temps, se reposer, pas le temps, faire l'amour, alors vite fait, se regarder soi-même, inutile, il y a son image. Or, le héros se voit parfois, sait s'analyser. J'ai des problèmes sexuels. Lui, si fier de son phallus, est impuissant orgastiquement. Certes, comment s'abandonner au plaisir quand il y a tant de choses à faire ? S'il parle beaucoup de ses problèmes sexuels, ceux-ci deviennent une justification à son comportement. C'est la faute à la société si je fais mal l'amour, et cette insatisfaction le rend plus agressif. C'est le cercle vicieux. Alors, il y a un petit schéma ici. En haut, problème sexuel, en bas, pur et dur, à gauche, sacrifice solitude, et à droite, agressivité, et avec une flèche qui va de pur et dur à sacrifice solitude, et de sacrifice solitude à problème sexuel, à gauche, et de dur et pur à agressivité. Je ne sais pas, ce n'est pas vraiment une flèche d'ailleurs, ce n'est plus une flèche, non, je ne sais plus. Enfin bon, il y a des relations entre ces quatre notion dans une forme circulaire.
Alors ça c'est bizarre parce que pour effectivement des gens, de ceux qui s'expriment dans Sexpol, qui se référeraient à Reich, à moins que j'ai mal compris, Reich ne dit pas le contraire, ne dit pas autre chose que si on a des problèmes sexuels, c'est à cause de la société. Mais là par contre il faut se foutre de la poire du mec qui dit ça. J'ai bien suivi. Il faut se foutre de sa gueule. Parce qu'il dit que s'il a des problèmes sexuels, c'est la faute à la société. Pourtant, j'ai cru comprendre que Reich ne disait pas autre chose. Mm-hmm. C'est comme quoi, il n'est pas obligé de dire que des bêtises non plus.
Mm-hmm. On tourne en rond, on s'interdit le plaisir, on garde ses problèmes. Le chef ne s'abandonne jamais, ne se donne à personne, c'est l'intouchable. Les sentiments, horreur, ça rend vulnérable. La tendresse, de la mièvrerie, de la connerie de nana. Le corps, outil de travail à entretenir pour la force.
Et juste une parenthèse là aussi, hein, je vais pas être sympa, mais je veux dire, encore une qui se la pète bien, parce que peut-être que c'est qu'il est pas, il a pas de sentiments pour elle, ça veut pas dire forcément qu'il en aurait pour personne, et peut-être que si c'est pas une affaire au lit, c'est qu'elle l'inspire pas, enfin c'est ce que je me demanderais, hein, je veux dire, si des fois où ça a pu m'arriver de pas inspirer un mec, je me suis pas dit que c'était forcément de sa faute non plus, tu vois, je veux dire, mais elle, oui, tu vois, bon.
On comprendrait mieux ce ton révolté de l'auteur. La tête, alors là, c'est la raison révolutionnaire du dur et pur, mais pas pour comprendre le comportement déviant de ses proches, toujours en train de courir après les secondes qui s'écoulent.
Attends, excuse-moi, est-ce que c'est qu'elle voudrait qu'il utilise sa tête pour comprendre les comportements déviants de ses proches ? On voit là une exigence, enfin c'est bizarre. Ouais, tu te sers même pas de ta tête pour comprendre les comportements des viandes de tes proches. Enfin bon.
Donc pas le temps de se parler, de s'expliquer sur le malaise que je ressentais. Plus j'évoluais, plus je devenais exigeante pour une remise en question, mais plus je me sentais incomprise et alors je me refermais sur moi. Je participais sans enthousiasme. Quand je demandais un geste tendre, il m'offrait un ouché, oulé, ouké. Alors, c'est quoi
C'est un truc de karaté.
Ah oui, figure bien connue du karaté. Oui.
Tu veux dire qu'il lui mettait une. Non, quand même pas.
Quand je demandais un geste tendre, il m'offrait un ouché, oulé, ouké, figure de karaté. Je voulais être avec lui.
Je comprends qu'elle n'était pas contente. Quand même.
Oui, alors. je voulais être avec lui, parler. Tu es un monceau d'égoïsme avec tes petits problèmes. Moi, je dois penser à tout. Je porte l'avenir du monde sur mes épaules et je suis seul. Et moi, et les autres ? Voilà l'exemple du sacrifice, de l'autorépression, l'autodiscipline. C'est le saint qui doit sauver le monde, se gardant férocement son mal dans sa peau comme critère absolu de sa motivation. Nouvelle peau. Il empeste de ce rôle étouffant, mais sa cuirasse le protège de ses désirs authentiques et ses brefs moments de lucidité le renforcent dans une agressivité contre lui-même. En fait, le héros militant dur et pur en est encore à un stade infantile, le stade phallique où seul dominent les organes génitaux. Mais l'épanouissement de la génitalité est inconnu, bien que désiré. Cela lui fait peur. Il refuse l'amour, toute marque d'affection, par crainte d'y trouver un plaisir certain et confortable. Et que serait alors son rôle ? Toutes ces occupations ne sont qu'étourdissement, prétexte à ne pas se connaître et à ne pas connaître les autres. Donc la révolution est un but auquel il n'est et ne sera jamais prêt. Et tant que la révolution sera confiée, entre guillemets, au dur et pur, entre guillemets, elle restera un mythe. La carapace héroïque doit tendre à une nouvelle peau érotique. Claire.
Bon, sans commentaire.
Alors oui, on est quand même dans une ambiance où déjà les militants, c'était quand même des Mao, la gauche prolétarienne. Ils avaient quand même une certaine... disons, il y avait un engagement qui c'est un mouvement presque de générationnel, quoi.
Mais en même temps, peut-être que c'est pas la peine de non plus de généraliser, parce que des Mao, il y en a beaucoup qui se passent avec Mao. D'ailleurs, c'est très drôle, il faudra qu'on en reparle. Mais dans le premier article, il montre comme exemple de Mao indécrottable qui changeront jamais Serge Julie et Alain Guichemard. C'est très drôle.
Oui. Qui changeront jamais parce qu'ils sont vraiment...
Ah oui, ils sont vraiment des purs et durs, indécrottables. Ah, tu sais, jamais ils seront autre chose que des purs et durs. Jamais. Très drôle.
Voilà, donc... je vais finir aussi... Je vais juste vous dire un petit truc encore sur Reich, et puis je...
Tu crois? Parce que notre carrosse ne va pas se changer en citrouille encore.
Oui, enfin... Ouais, aujourd'hui, comme il n'y a pas d'émission qui suivent, on peut dépasser de quelques secondes. Sur Radio Libertaire,
89.4. Oui.
Et c'est la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et voilà, c'est ce que je voulais lire, c'était aussi l'épilogue posthume par rapport à Reich, donc qui nous disait que, qui nous dit, alors c'est extrait de Wilhelm Reich, parcours d'un inventeur, de David Selem. Bon, une longue biographie de Reich, très documentée. L'œuvre de Wilhelm Reich a connu un essor extrêmement important à partir des années 60-70, à la fois de par ses élèves et disciples, puis les disciples de ces derniers, et notamment le courant de toutes les thérapies psychocorporelles des Salènes. La première étant la psychanalyse corporelle, qui s'inspire directement de l'analyse caractérielle, et les thérapies dites néo-reichiennes. Parmi les disciples et analysants de Reich, le plus connu est Fritz Perls, qui a fondé la Gestalt-thérapie, et pour qui le travail thérapeutique qu'il a pu faire avec Reich a été déterminant. Puis, il y a eu la bio-gestalt, qui est une synthèse avec la végétothérapie bio-énergétique. On peut également citer le pictodrame, qui est une thérapie basée sur l'art et la bioénergie. Le cri primal, inventé par Arthur Janov...
Excuse-moi, c'est en lien avec Reich, cette horreur ?
...a aussi quelques accointances avec la bioénergie.
Oh mon Dieu ! Ah non, parce que faut que je dise quand même par rapport au débat qu'on va faire et au film qu'on va projeter,
voilà,
où on voit entre autres une séquence de thérapie particulièrement monstrueuse. Janoff, j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment un monstre, quoi. C'est une horreur. Sa façon de faire, c'est l'idée de taper dans les défenses des gens pour provoquer des réactions et tout. Et la mère d'une copine s'était suicidée suite à un truc comme ça. Et en particulier, il y a vraiment la notion de normalité qui était vraiment très, 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 très présente. Et vraiment, il faudra qu'on fasse un truc spécial sur Janoff. C'est dégueulasse, vraiment. Vraiment dégueulasse. Enfin, bref,
c'est... Voilà, c'était pour en arriver
un petit peu à ça. Je crois que c'est un des pires qui puisse exister.
Et donc, je saute un petit peu de phrase, et puis j'arrive sur... Et puis, il y a eu en France, après mai 68, une résurrection, celle de la sexpol, dans un contexte qui se voulait de libération sexuelle, avec un regain d'intérêt pour les conceptions reichiennes, donnant lieu notamment à la naissance de la revue Sexpol dans les années 70, mariant sexualité et politique, et dont la majeure partie sont mis à la disposition... c'est tout. Sont mis à la disposition en ligne par ce dont tu parlais tout à l'heure, le Mouvement international pour une écologie libidinale.
Alors eux, c'est...
Il faut dire quelque
c'est
chose.
C'est vraiment des trucs du genre, il faut éduquer sexuellement ses enfants, tu vois, en faisant l'amour devant eux, histoire qu'ils découvrent pas ça sur YouPorn, enfin que des trucs comme ça. Et même des trucs homophobes, d'ailleurs, parce que la pédophilie, c'est naturel, mais pas l'homophobie. L'homophobie est très naturelle, au contraire. Et c'est vraiment dégoûtant. Le miel, c'est vraiment truc dont le truc est vraiment la promotion de la pédophilie.
D'accord. Eh bien voilà, ainsi se termine notre édition de l'Entonnoir pour cette semaine. Salut.
Au mois de septembre, c'est la rentrée.
I don't need no doctor, 'cause I know what's ailing me.